Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Et bien sûr, Tech & Co, la quotidienne, c'est une heure de débrief. On prend le temps et on s'intéresse au sujet d'actualité du jour dans le monde de la tech. Avec, par exemple, ce soir sur le plateau de Tech & Co, Michel Lévy-Provençal qui est avec nous. Salut Michel.
Bonsoir François.
Ravi de te retrouver. Prospectiviste, fondateur de TEDx Paris et de l'agence Brightness. Clément David est là aussi, surnommé Clément le roi du cloud.
J'adore. J'ai pas reçu mon carton d'invitation pour l'anniversaire de Tech & Co. Mais je pense qu'il s'est perdu.
Non, c'est tout à fait normal parce que je sais que tu as plusieurs fois essayé d'en avoir un. Oui. Et avec Léa, la productrice, on s'est dit que c'était pas intéressant que tu viennes.
C'est pas super.
Voilà. Mais bien sûr, tu es cordialement invité.
Bien sûr.
Ça tombe bien parce que juste après, je vais expliquer ce qui va se passer jeudi. Et puis Cédric Ingrand qui est là. Ça va mon Cédric?
Salut François.
Cédric Ingrand, directeur général de Heavyweight Studio et surtout imminent journaliste dans le monde de la tech depuis de très nombreuses années.
Arrêtez.
25 ans. Eh oui, jeudi soir, on fêtera les 25 ans de « De quoi je me mêle », cette émission que j'ai créée en 2000. À l'époque, c'était sur RMC. Elle est passée en podcast, après elle est arrivée sur BFM Business. Et voilà, cette émission a 25 ans puisqu'elle a été lancée en mars 2000. Et à cette occasion, une journée exceptionnelle vous attend sur BFM Business. On va fêter ensemble les 25 ans d'innovation. Et on va en profiter pour revenir sur les innovations qui ont chamboulé, bouleversé notre quotidien depuis l'an 2000. Et croyez-moi, il y en a beaucoup quand on commence à faire le point. On va dire en point d'orgue de cette journée, ce sera une grande soirée que je vous proposerai en direct du Studio 1, le grand studio de RMC BFM. On sera en public et à cette occasion, ce sera une émission spéciale durant laquelle, eh bien, avec des invités prestigieux, on reviendra sur les 25 ans de la tech, à la fois en France mais aussi dans le monde. J'aurai entre autres Pascal Cagny qui a été patron d'Apple Europe pendant des années. On reviendra sur la naissance de l'iPhone puisqu'il était là cette année-là. Il y aura Fred Potter qui est le patron de Netatmo qui viendra nous rendre visite. Enfin, plein de personnalités passionnantes du monde de la tech qui seront avec nous. Luc Julia aussi sera là pour nous faire sa petite sélection des innovations qui l'ont marqué durant ces 25 dernières années. Ce qui est intéressant, c'est que avec le QR code que nous allons vous afficher tout de suite, vous allez pouvoir participer à cette émission et être dans le public si ça vous dit, si vous êtes dans la région parisienne.
Ah bah voilà,
sauf Clément David. Sauf Clément David, parce qu'il n'a pas de...
On va tous le faire en direct.
Et vous inscrivez, et c'est gratuit, bien sûr. Et si vous êtes dans la région parisienne, vous serez les bienvenus. Dépêchez-vous parce que les places sont comptées, mais il en reste, d'après ce que j'ai compris, quelques-unes. Voilà, on sera très heureux de pouvoir échanger avec vous à la fin de cette émission, donc jeudi.
Et comme on a dit, il y aura un iPhone sous chaque siège. Non, on ne fallait pas le dire.
C'était quand même 5 ans avant la naissance de Désiré bien. Doué. Voilà.
Ah peut-être. Ah,
oui. Je veux dire, le mec est né encore 5 ans plus tard que de quoi je me mêle.
Tu t'es trompé de plateau, c'est un peu plus loin.
C'est un peu plus loin, le plateau d'RMC juste à côté.
L'after foot, si vous me regardez maintenant, s'il vous plaît, venez me chercher.
Enfin bref, voilà. Rendez-vous jeudi pour cette émission exceptionnelle. Mais là, on va plonger dans l'actu avec plein de sujets passionnants. Et commencer par Microsoft, je le disais. Microsoft qui a annoncé des changements pour se conformer à la loi européenne sur les marchés numériques. On a l'impression que on reprend les mêmes et on recommence, hein. Finalement, Cédric, nous, on a suivi ça à la grande époque.
Avant même de quoi je me mêle.
Avant même de quoi je me mêle. Je ne sais pas en quelle année c'était cette histoire-là.
Fin des années 90, 98, 99.
Et c'était Internet Explorer.
C'est quoi ? Vous mettez un navigateur Internet dans votre système, mais c'est affreux.
Et voilà. Et à l'époque, rappelons-le, hein, Microsoft s'était fait taper sur les doigts, avait payé une grosse amende parce que, en fait, ils imposaient Internet Explorer quand on avait Windows.
À but de position dominante.
Voilà. Et bien, c'était l'Europe déjà qui avait tapé sur les doigts de Microsoft.
C'était aussi la FTC. Enfin, c'était aussi.
C'était tout le monde.
Le commerce américain. Mais le temps que la décision soit définitive, c'était devenu un peu caduque quand même, oui, dans l'ensemble. C'est-à-dire que c'était devenu un combat d'arrière-garde. C'est toujours le problème du judiciaire face aux technologies, ou même du législatif face à la technologie.
Et évidemment, l'histoire se répète, puisque cette fois-ci, avec la mise en place du DMA, vous le savez, le Digital Markets Act, qui a été mis en vigueur le 6 mars 2024, eh bien, Microsoft a été obligé de modifier son Windows et d'enlever, en tout cas de plus imposer son navigateur Edge. Il l'est toujours, mais il vous arrive pas en plein dans la gueule, si j'ai envie de dire, dès que vous lancez un truc comme ça. Enfin, dès que vous lancez, par exemple, un lien dans la barre d'étage de Windows. Je sais pas si vous avez
remarqué. En fait, si j'ai bien compris, en l'état, pour avoir lancé un Windows tout neuf il y a pas longtemps, à ta première connexion Internet, on te disait, est-ce que vous voulez que Edge soit votre navigateur par défaut? Et en gros, ce que dit l'Europe, c'est que c'est pas la bonne forme. C'est pas la bonne formulation pour la question.
Quel navigateur voulez-vous que vous C'est-à-dire ayez que par défaut?
Si tu lances Edge, là, Edge peut te demander, puis-je devenir votre navigateur par défaut? D'autant qu'à cet instant précis, normalement, t'en as pas déjà un autre. Mais il faut pas que ce soit le système qui t'aiguille vers son navigateur maison.
Ce qui était un peu le cas. Voilà, c'est la suppression aussi du Microsoft Store. On va rentrer dans le détail, mais c'est quand même assez intéressant. Et encore une fois, on voit que l'Europe, impose à Microsoft des mesures qui sont quand même assez restrictives. Je sais pas qui veut commencer là-dessus. Clément, peut-être?
Pitié.
Non, alors non.
Oh non, mais je peux démarrer.
Michel, allez, Valérie.
Non,
il boude parce qu'il ne sera pas là jeudi,
oui,
c'est pour
j'ai
ça.
Oui, j'ai bien compris, oui, mais il préférera être sur le plateau.
En fait, je présente les 25 ans.
Tu veux que je te présente Gilbert Bribois? C'est un pote, hein. Il n'y a pas de souci.
Ça serait trop bien.
Je serais un peu jaloux quand même, parce qu'après, tu iras dans l'after foot. C'est pas terrible. Pardon.
En réalité, c'est un jeu de chat et de la souris entre la Commission, les Européens et les différents acteurs. Il n'y a évidemment pas que Microsoft. Google est aussi en ligne de mire, on l'a vu, Apple aussi. Là, en réalité, d'après ce que j'ai compris, je crois qu'il y a eu des incitations à réinstaller le navigateur, à réinstaller aussi le store à partir du moment où ça avait été désinstallé. Et c'est là que la Commission, en tout cas les autorités de régulation européennes, sont en train de monter au créneau. Les conséquences de ça, c'est que ça va encore réduire les parts de marché du navigateur. Et donc...
Qui n'est pas, à mon avis, hyper élevé.
Non, mais ça va réduire Bing, à nouveau. On est dans une course tout de même si l'IA est en train de prendre la main sur le search, et on le voit par l'introduction de l'IA dans les moteurs de recherche de Google. Quand on va sur Bing aujourd'hui, qu'on recherche, il y a l'IA qui répond. C'est pareil avec Google maintenant, hein. On voit de plus en plus d'IA. Le point d'entrée reste quand même le navigateur. Et donc, le navigateur, c'est le nerf de la guerre. Et s'ils perdent l'accès à leur navigateur où ils maîtrisent l'écosystème, eh bien, pour Microsoft, potentiellement, c'est une perte d'influence. Et donc, on peut comprendre. Maintenant, le problème est le même pour Google. Ils ont exactement le même problème.
Oui, c'est vrai.
On leur demande de vendre...
Cédric, là-dessus?
Ils sont dans une espèce de bataille en plus assez déséquilibrée, parce que ils ont à peu près des parts de marché inverses, l'un sur les systèmes d'exploitation, l'autre sur le navigateur et le search. Mais un peu comme la dernière fois où on se parlait des actions en justice contre Apple aux États-Unis, ils vont aussi avoir beau jeu de dire que, vous savez, on est dans un monde où tout bouge tout le temps. Regardez, par exemple, le search, c'est plus ce que c'était, parce que l'IA arrive, donc qui sait où nous serons dans un an ou deux ans. Donc vous êtes en train de réagir à un état de la concurrence à un instant T qui finalement sera peut-être complètement dépassé le temps que une décision éventuelle devienne définitive.
Clément?
Non, mais en 2025, quand tu compares l'époque qu'on vit, les transformations qui se passent et ce sur quoi on est en train de se battre, moi ça me déprime. Qu'il y ait la moindre personne à Bruxelles payée avec nos impôts, parenthèse, qui sont en train de réfléchir à ce qu'on fait du Microsoft Store. On n'a même pas un concurrent européen crédible. Tu vois, on aurait un concurrent européen crédible et on serait en train de pousser un peu les autres de l'épaule en disant on va faire de la place aux copains de la maison. Tiens, on n'y passe, je comprendrais, tu vois, ce serait de bonne guerre. Là, que Edge ou Chrome ou quel magasin d'applications soit installé par défaut, de toute façon, parce que si c'est pas un Américain, ce sera un autre. Donc pour nous, ça change absolument rien. Je trouve ça un peu, c'est pour ça, je dis non pour rigoler, mais je trouve ça un peu déprimant comme discussion. Le fait qu'on prononce Edge à Bruxelles aujourd'hui comme un sujet de réflexion, déjà en soi, ça me dépasse.
Ouais, mais est-ce que c'est pas un principe finalement?
Mais, oui, mais en fait,
tu pourrais dire, c'est sûr que c'est pas très important.
Tu vois, l'Europe, on est bourré de principes. On en a des tonnes de principes. C'est-à-dire, quand on fait les AI Summit et que ce qui sort, c'est une charte de la 27e 1000 charte sur l'IA éthique, convenable, la prochaine fois ce sera équitable, je sais pas quoi.
RSE, moi j'aimerais bien qu'il y en ait une RSE.
Mais attends, attends, elle va arriver.
Elle va arriver, hein. Dire,
patience.
Oui, patience. Des principes, on en a plein et on mourra avec nos principes. Okay. Ça sera très bien, tu vois.
Bon, écoutez, voilà. Mais on,
ah bon, c'est la. Moi, je suis pas très positif.
Non, mais c'est l'une des actus du jour. Il fallait quand même.
Non, mais d'habitude, c'est comme... moi qui donne ce genre de coup de gueule.
Ouais, c'est vrai, là, c'est vrai, c'est vrai. Là, c'est vrai que t'es plutôt contenu ce soir.
Ouais, c'est vrai. Ça va venir.
Mais cela dit, Edge, bon, c'est vrai que ça n'a pas manqué à grand monde. Franchement, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais. Deuxième sujet d'actualité, c'est pour ça qu'on a, on s'est vraiment précipité sur Microsoft pour prendre le temps maintenant de revenir sur ce dont tu voulais nous parler, Cédric, et on va en débattre tous là-dessus, parce que tout est en fait arrivé avec, la sortie d'un bouquin. Qui s'appelle Apple in China. C'est le bouquin de Patrick McGee qui t'a passionné. En fait, tu l'as pas encore lu, mais tu as entendu un pote, tu as écouté un podcast où cet auteur raconte en fait ce qu'il raconte dans le livre.
Ouais, c'est oui. Ça. J'ai lu deux articles, et écouté trois podcasts. En plus, il est passionnant, journaliste au Financial Times. Et en gros, il raconte l'histoire de comment Apple est arrivé en Chine, comment Apple a grandi en Chine et comment Apple a fait grandir la Chine. C'est-à-dire comment Apple, c'est un peu la thèse du bouquin, a fait de la Chine le leader mondial de la tech. Parce que là aussi, là-dessus, on a souvent des images un peu datées de usines du monde, tout ça. On déplace là-bas des choses qui ont peu de valeur ajoutée. Mais c'est fini, ça. Ça, c'était la Chine d'avant. Ça, c'est complètement terminé. Il y a encore un peu plus de 10 ans, je me souviens, je voyais Eric Schmidt qui était encore chez Google à l'époque, à qui on demandait mais pourquoi est-ce qu'on produit pas toutes ces choses-là aux États-Unis, et qui secouait la tête en disant mais parce que ce n'est plus possible. Nous n'avons pas l'expertise, nous n'avons pas. Et alors surtout quand on est Apple, le reste du monde n'a pas l'échelle de la Chine.
Ah oui.
Et là, surtout, ce bouquin, il parle par tout ce qu'il raconte, mais aussi par les chiffres. Apple, en Chine, aurait formé 28 millions de personnes. 28 millions. 28 millions de personnes, c'est plus que la population active de la Californie. Mais formé à son ethos du design industriel, du contrôle qualité, etc., etc. Et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Alors, soit ils sont encore chez des sous-traitants d'Apple, parce que Apple ne produit pas ses propres...
Parce que ces gens-là ne sont pas salariés d'Apple, non, de manière directe.
Donc, ce qu'ils ont appris, on l'a retrouvé chez Xiaomi, chez Oppo, et puis chez Tesla en Chine, et chez BYD, et chez XPeng. C'est-à-dire que cette domination technologique est pas juste... On n'est plus du tout sur des histoires de salaire horaire. On est vraiment sur la création d'un écosystème complet qui est impossible à reproduire. Et c'est ça l'autre thèse, en tout cas, que développe le livre, c'est que, en fait, Apple s'est piégé. Apple est allé en Chine et les Chinois leur ont dit « Écoutez, on va faire comme d'habitude, vous allez faire des joint ventures avec des acteurs locaux. » Apple a dit « Joint quoi ?» Non, on ne connaisse pas ce mot chez Apple. Il n'y a pas d'alliance avec Apple. Mais en échange, Apple a promis des investissements à des niveaux énormes. Ils ont investi 275 milliards en 5 ans, 5 fois 55 milliards, justement sur les lignes de production. On ne saisit pas, c'est-à-dire qu'on n'imagine pas ce que c'est que sortir 1 million d'iPhone par jour.
Non,
voilà,
on ne se rend pas compte
pas compte de l'échelle. Moi, je me souviens, j'ai une anecdote qui me revient, il y a quelques années, United Airlines, à San Francisco, a fait une pub en disant, en listant les sociétés qui bookaient sur ces vols, le plus de sièges en business. Numéro 1, c'était Apple. Apple prenait la moitié de la business class de tous les vols de United. Et quand même, on se gratte la tête en disant, mais quand on comprend l'échelle du truc,
bien sûr,
on comprend aussi qu'Apple, en fait, quand il donne des signes à Donald Trump, en disant, si, regardez, on va investir là. En fait, les 500 milliards, c'est de l'investissement, mais c'est aussi de la recherche. C'est plein de choses qui n'ont rien à voir.
Et puis, c'est des investissements qui ont déjà débuté il y a peut-être 10 ans, en fait, et qui vont se poursuivre pendant encore 10 ans.
Oui, parce que la dernière fois, il leur avait montré une usine de Mac Pro qui existait depuis longtemps déjà. Enfin, mais c'est pas grave, parce qu'ils ont face à eux un président qui est uniquement intéressé par le titre du communiqué de presse, en
tout
gros,
à fait.
Autre chose près. Et ça donne une situation où, même si Trump vraiment rajoute 25% de droits de douane, c'est impossible. Apple ne peut plus sortir de la Chine et est devenu presque prisonnier d'un système qu'il a aidé à créer. Le bouquin est passionnant, il est dans un colis qui est en chemin vers chez moi. Je te le raconterai en long et en large la prochaine fois.
Mais c'est passionnant.
Sur un Kindle peut-être.
C'est un sujet passionnant parce qu'effectivement, il y a cet aspect-là, le fait que la Chine s'est sentie piégée. Et puis, il y a effectivement toutes les inspirations qu'Apple, et tu le disais aussi, toutes ces personnes, ces 28 millions de Chinois qui ont été formés, Il y en a pour certains, ils sont restés 2-3 ans chez Apple, et après, comme tu le disais, ils sont partis chez Oppo, ils sont partis chez Huawei, ils sont partis chez Tesla.
Quand Tesla s'est installé en Chine, ils sont allés chercher des gens formés à l'école.
Et encore, Tesla, c'est peut-être le plus mauvais exemple, parce que c'est une boîte américaine. Mais ils sont allés chez BYD, ils sont allés chez Xiaomi, comme tu le disais. Et c'est incroyable comme, en fait, Apple a infusé à la concurrence des préceptes de l'industrie, finalement, et de la manière dont il fallait travailler. Et la Chine ne l'avait pas avant tout ça. Et là, maintenant, ça y est, ils sont à un niveau qui est inatteignable. C'est pour ça que quand, et tu le disais aussi, quand Donald Trump dit il faut tout relocaliser aux États-Unis, c'est impossible.
Un iPhone, c'est une centaine de sous-traitants.
Mais voilà. Il faudrait une centaine d'usines autour de l'usine qui assemble l'iPhone, en fait.
On pourrait peut-être faire un assemblage final, comme certains le font dans l'automobile.
Mais ça coûterait tellement cher.
Ça coûterait plus cher, ça sauverait peut-être la face.
Ouais, mais la face. Justement.
Mais ce serait compliqué.
Ouais, mais connaissant Tim Cook, tant qu'il sera là, lui qui est le roi de la supply chain, il acceptera jamais ce type de deal. C'est Michel et après Clément.
Vas-y. En fait, Tim Cook est l'acteur de cette transformation d'Apple, même si au départ c'était Steve Jobs, parce que les premiers, je crois que c'était les iMac ou les premiers Mac. Étaient fabriqués au Mexique, au Pays de Galles. Ils avaient essayé de le fabriquer aussi en Corée, mais ils s'est très vite rendu compte qu'il fallait avoir une supply chain beaucoup plus solide. Et c'est Jobs qui a commencé, mais c'est en réalité Tim Cook qui a accéléré de manière massive. Et en fait, aujourd'hui, mais on le dit à plusieurs reprises, le risque principal pour Apple, dans la situation géopolitique dans laquelle on a parlé le week-end dernier de l'augmentation du risque d'invasion de Taïwan par la Chine. Mais imaginez un instant qu'en effet, il y a un conflit comme celui-là et qu'il y a un blocus et qu'il y ait un embargo des Américains à l'égard de produits fabriqués en Chine. Mais c'est une catastrophe pour Apple. C'est-à-dire que même la transition d'Apple en Inde, au Vietnam, qui est balbutiante, ne leur permettra jamais de remonter et de se mettre sur pied.
Si demain la Chine coupe les ponts avec Apple... Alors, je ne sais pas si c'est possible.
Ils n'ont aucun intérêt à le faire.
Non, mais quand tu vois qu'il y a cette surenchère géopolitique qui va loin, quand même. Je veux dire, après, c'est des débiles. C'est débile ce qui se passe. Le couperet peut tomber et dire, écoutez, vous savez quoi, la menace, c'est qu'on arrête de collaborer avec Apple. Et là, ça serait terrifiant. Apple se retrouve...
Les Chinois aussi.
La vraie menace, c'est une invasion de Taïwan et TSMC s'arrête de fonctionner. Et là, tout à coup, ça concerne tout le monde et pas juste Apple.
C'est ce qu'on a vu pendant le Covid.
On n'aurait même plus acheté un sèche-linge.
Pendant le Covid, t'as vu la fragilité de cette chaîne logistique. Oui. Et tu t'es rendu compte que quand les ports chinois, mais les Chinois d'ailleurs, ont mis 2-3 coups de pression en ralentissant, tu vois, les sorties de containers dans les ports, en disant une ou deux semaines de pause, machin. Et on a vu tout de suite que ça mettait toutes les chaînes de production sous tension. Mais tu vois que juste après le Covid, l'année d'après, on discutait sur ce plateau en disant, OK, l'année dernière, Tesla, par exemple, a perdu 500 millions de dollars juste avec le nombre de voitures qu'ils ne pouvaient pas produire, etc. On parlait des PlayStation qui avaient du retard, qu'on n'arrivait pas à trouver. Je crois que c'était la Play 5 ou la Play 4. C'était la Play 5.
Pendant le Covid, quasi.
Personne n'arrive à s'en procurer parce que la supply chain ne tient pas la route à cause du Covid. Donc, en fait, on les a vécus, ces moments-là, on sait à quoi ça correspond. Mais c'est vrai que le livre, en fait, c'est trop marrant parce qu'à la fois, on n'apprend rien et en même temps, il est passionnant. C'est-à-dire que d'un côté, on sait que quand tu bosses avec la Chine, tu vas transmettre la technologie. Ce qui est extraordinaire, c'est comment ça s'est fait, parce que justement, d'habitude, c'est un peu plus visible que ça. On sait que tu vas devoir t'asseoir sur les droits de l'homme. Pas grave. On sait que tu vas devoir participer à la censure d'une manière ou d'une autre. Il y a une sorte de pacte.
C'est quand même un peu savoureux pour une boîte comme Apple qui prône quand même, justement.
Bien sûr.
Enfin, je veux dire, une qualité sociale, j'ai envie de dire.
De toute façon, depuis le début, c'est
bien au-delà de la moyenne.
Ouais. Depuis le début, c'est compliqué.
Mais ça, on l'a su, tu vois. Les scandales Foxconn, on les connaissait. Mais ce qui est génial dans le bouquin, déjà, c'est extrêmement bien documenté. C'est des mémos internes, c'est des 200 interviews, des choses comme ça. Mais en plus, c'est vrai que tu vois, c'est ce que tu as décrit, tu vois se construire la domination de la tech chinoise avec un exemple qui est disséqué et qui est extraordinaire. Et tu comprends pourquoi BYD est là, tu comprends comment Huawei ils sont devenus ce qu'ils sont devenus, et comment en fait les Chinois sont passés d'une usine à produire du bas de gamme à une usine qui continue à produire du bas de gamme, parce qu'il n'y a pas de problème, tu peux en faire autant que tu veux en Chine à pas cher. Mais comment est-ce que derrière ils peuvent aussi devenir les meilleurs sur tout un tas de domaines où ils ont récupéré de la technologie qu'ils n'ont pas inventée, mais où ils se sont appropriés la technologie et maintenant ils produisent du plus haut niveau, plus vite que n'importe qui. Et puis le gigantisme. C'est vrai que, je disais...
L'échelle.
La première remarque, quand tu regardes les commentaires sur le bouquin, les gens disent « Oui, mais tout le monde produit en Chine. » Oui, mais en fait, les estimations, c'est qu'au moment... Donc, on parle du chiffre de 275 milliards sous l'ère Tim Cook. Intel, notamment, et Microsoft, qui ont aussi investi en Chine, on estime qu'en moyenne, ils ont investi entre 3 et 10 milliards. Tu vois, c'est quand même dingue. Quand on parlait de United Airlines, c'est Apple qui a fait ouvrir... Ils racontent dans le bouquin, Apple a fait ouvrir à United Airlines une ligne... direct Chengdu en Chine, San Francisco, parce qu'il y avait trop de voyages et qu'il fallait pouvoir les assumer. Je veux dire, c'est cette taille-là que le livre nous apprend.
Ouais, c'est devenu une navette.
C'est extraordinaire.
En fait.
Ouais, ouais. En réalité, c'est un point caractéristique de ce qui se passe de manière générale dans les entreprises occidentales. Cet exemple qui est emblématique, en réalité, c'est une illustration de la situation du monde occidental qui s'est désindustrialisé au profit de la Chine et avec une prise de conscience aujourd'hui, ça, c'est un signal. C'est une prise de conscience majeure, on le voit particulièrement en France, hein, de la nécessité de se réindustrialiser, de se réarmer, mais avec la complexité que tu évoquais à deux moments, au tout début quand tu parlais de l'Europe, et là quand tu évoquais les droits de l'homme. La complexité qu'on a dans le monde occidental, et particulièrement en Europe et en France, c'est la nécessité d'avoir des modèles industriels qui répondent à des exigences sociales et environnementales que la Chine n'a pas. Donc, comment est-ce qu'on va construire un modèle de réindustrialisation qui soit compétitif dans ce monde-là ? Il y a des pistes. La question de la confiance, la question de l'offre d'un produit dont on sait qu'il a été fabriqué avec une certaine éthique, avec un certain nombre de critères...
C'est mais il coûtera combien de pourcentage plus cher ?
Bien sûr.
C'est ça le souci.
Bien sûr.
Mais
bien sûr.
Et là, on n'est pas à 2, 3, 4 ou 5%.
On n'est pas à 2, 3, 4%.
C'est
beaucoup plus que ça.
Non, mais c'est pas le seul souci. Il faut pas résumer non. C'est très vrai. Mais il faut pas résumer non plus la Chine. Je crois que c'est toi qui disais à deux minutes, t'as une problématique de salaire horaire. C'est-à-dire que, en fait.
Oui, en plus, le salaire horaire a augmenté en Chine aujourd'hui.
Et puis, c'est qu'une partie de l'équation. C'est-à-dire que ce que te propose la Chine, notamment quand tu vas à Shenzhen, c'est un triangle où t'as la production. Évidemment, ces usines qui sont des usines de 60 000 personnes, où tu vois, le bouquin de référence, c'est Leslie Chang qui a écrit un bouquin qui s'appelle Factory Girls et qui décrit l'exode rural, ce que c'est les conditions quand tu travailles, ce que sont les conditions quand tu travailles en Chine dans une usine, etc. Produire à bas coût, le coût humain, etc. Ça, c'est vrai, mais c'est une partie du triangle. Tu as l'autre partie qui est le niveau et la quantité des ingénieurs. La Chine, c'est 600 000 ingénieurs par an qui sont formés et qui sont des ingénieurs d'un niveau, notamment en mathématiques.
Bien sûr.
Extraordinaire. Et tu as une troisième partie qui est la chaîne logistique avec des ports qui sont directement reliés aux usines via des voies ferrées, etc. Et en fait, c'est pas seulement que nous, avec les droits de l'homme et avec nos syndicats, etc., on sera embêtés parce que ça sera sur la partie production. Mais même sans même prendre le gigantisme, etc., cette équation, autant de très bons ingénieurs, une chaîne logistique aussi extraordinaire et ces usines qui sont... Il y a des usines en Chine qui produisent leur propre eau et ils la mettent en bouteille eux-mêmes parce qu'en fait, ils se suffisent. C'est extraordinaire.
Ce sont des villes,
là.
En fait.
Non, mais c'est ça. C'est ce triangle-là qui est, je pense, et ce qui est peut-être un peu déprimant, mais impossible à reproduire.
C'est clair. Vous rendez compte que
rien ne te met à l'envers, la tête à l'envers, comme une visite à Shenzhen.
Mais bien sûr.
Parce que tu crois que tu as vu des choses parce que tu es allé 14 fois dans la Silicon Valley et là tu arrives c'est un autre monde.
C'est un gigantisme
et là,
qui est vertigineux.
Tu comprends à la fois la sophistication et l'échelle que personne d'autre ne peut avoir aujourd'hui.
Et des années 80, pardon, mais Shenzhen, alors c'est, tu sais, la tarte à la crème du village de pêcheurs, mais n'empêche que Shenzhen, le développement de Shenzhen, qui aujourd'hui est une ville chiffrant dizaines de millions d'habitants...
Et juste à côté de Hong Kong,
juste en face, et où qui commence, où le vrai développement de Shenzhen commence dans les années 80, quand la Chine s'ouvre au capitalisme, au marché, en tout cas à l'économie de marché, et que Deng Xiaoping dit « Chinois, enrichissez-vous ». Et ça commence dans les années 80. Tu vas à Shenzhen tous les deux ans, tu reconnais pas ton quartier. Moi, mon frère jumeau vivait à Shenzhen, il a fait un mémoire d'ailleurs sur l'internalisation des compétences par la Chine. Et lui, il se perd à Shenzhen alors qu'il y a vécu 10 ans. Quand tu y retournes, tous les 2 ans et demi, quoi.
Enfin, tout ça est vertigineux. Moi, il me tarde de pouvoir le lire, ce bouquin. Oui. Donc, il est déjà disponible. Je ne sais pas s'il sera traduit, d'ailleurs, en français.
Ah, ce serait dommage. Sinon, il va falloir qu'on s'y attelle.
Ouais. Ou alors, il faudra faire appel à l'IA, justement, pour le traduire. Voilà, Apple in China. Et c'est Patrick Magui qui a sorti ce bouquin. que vous pouvez trouver sur Kindle, etc. Partout. Etc. Un petit peu partout. Ce qui est intéressant.
On l'a bien vendu, hein, je veux dire que là.
Non, mais ouais, mais c'est passionnant.
Ah, mais c'est, non, ça a l'air.
Enfin, on parle de ça dans Tech & Co tous les soirs quasiment. Et le fait d'avoir cette vision-là, cet angle-là, c'est passionnant. Moi, j'avais vu un document.
Sur une histoire qu'on croyait connaître.
C'est ça. En fait. Exactement.
Et dont on soupçonnait pas les contours exacts.
Ouais, moi j'avais vu un documentaire qui était passionnant sur les jeunes chinois paysans qui arrivaient à Shenzhen pour trouver du travail parce qu'ils étaient ils étaient tellement pauvres qu'ils arrivaient à peine à manger ou ils avaient une vie tellement médiocre qu'ils partaient vers Shenzhen pour justement gagner de l'argent en arrivant dans ces usines de Pegatron, de Foxconn, etc., etc. Il faut savoir que ces usines-là, c'est des villes entières avec des dortoirs avec des dizaines de milliers de lits. C'est-à-dire que les gens ne bougent pas. Ils travaillent, ils dorment et ils vont repartir au travail le lendemain.
En fait. L'exode rural chinois des.
Enfin, quand ils travaillent pas la nuit, parce qu'évidemment ça bosse toute la journée, toute la nuit et toute la journée. Hein, là-bas.
L'exode rural chinois. Pour les entreprises technologiques travaillées dans les usines sur les 10 dernières années, on estime que c'est 220 millions de personnes. C'est quasiment la population des États-Unis. Voilà. À Shenzhen, personne ne vient de Shenzhen.
Bien sûr. Et donc ce scénario est impossible à reproduire nulle part ailleurs, en fait. Non. C'est impossible.